réplique, actualité de l'antisémitisme avec Delphine Orvilleur et Dany Trom. En 1944, Bernanos, auteur, comme chacun sait, d'une biographie enthousiaste d'Édouard Drummond, écrivait « Le mot d'antisémitisme fait de plus en plus horreur. Hitler l'a déshonoré à jamais. » Phrase effrayante et profonde. Comment, en effet, se déclarer froidement, fièrement ou fiévreusement antisémite après les révélations sur les camps de la mort et la tentative nazie d'éradiquer les Juifs de la surface de la Terre ? L'Europe post-hitlérienne s'est même édifiée sur le traumatisme d'Auschwitz. Comme l'a écrit le sociologue allemand Ulrich Beck, le souvenir européen radicalement autocritique de l'Holocauste ne détruit pas l'identité de l'Europe, il la constitue. Mais voici que l'édifice vacille. Si le mot d'antisémitisme reste malfamé, la chose, c'est-à-dire la haine des Juifs, ressurgit avec une vigueur et même une innocence qui tous, autant que nous sommes, nous ont pris au dépourvu. Les actes anti-juifs, apprend-on, ont augmenté de 78% en 2018. Il faut réagir, bien sûr, mais pour réagir à bon escient, il faut comprendre, il faut essayer d'y voir clair. À cet effet, j'ai convié aujourd'hui le sociologue Dany Trom et Delphine Orvilleur, qui est la femme rabbin du mouvement juif libéral de France. Après La promesse et l'obstacle, un essai sous-titré « La gauche radicale et le problème juif », Dany Trom publie « La France sans les juifs ?» point d'interrogation, et de Delphine Orvilleur vient de paraître « Réflexion sur la question antisémite ». Je voudrais partir, non de l'étonnement, source de la philosophie, mais de la stupeur. Que se passe-t-il pour que cette question, la question antisémite, se pose à nouveau, Delphine Orvilleur?
J'ai eu l'impression de faire partie d'une génération où on s'est dit pendant de nombreuses années, on a la chance d'être né à ce moment-là, une sorte d'immunité qui allait nous être donnée. Et moi, il m'a semblé, dans ma biographie personnelle, que Carpentras a été un tournant. Pour d'autres, c'est l'attentat de Copernic. Chacun a un moment où quelque chose vacille et qui nous fait dire, comme une sortie de naïveté, qu'en réalité, non, notre génération aussi y est confrontée. Et tout à coup, on se dit quelque chose qu'on savait, qu'en réalité, l'antisémitisme, il a toujours muté. Il a toujours été là, mais il a muté en prenant des visages différents, des enveloppes différentes. On l'a dit encore et encore, et parfois des noms différents, parfois même qui tournent presque au grotesque. J'entendais encore récemment, dans une manifestation, des gens à qui on disait « les antisémites n'ont rien à faire ici », et quelqu'un en face répondait « on n'est pas antisémite, on est judéophobe ». On pourrait presque en rire, tellement parfois ça tourne presque au grotesque, les noms qu'on peut donner pour tenter, si vous me permettez l'image, de cachériser un antisémitisme qui a été si peu cachère tant d'années après la Shoah, mais qui tout à coup prend des visages qui lui permettent de réapparaître si fortement, de résonner si fortement. Alors on pourrait chercher du côté des motifs qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui, à mon sens, ont beaucoup à voir avec cette libération de l'antisémitisme ou du nouvel antisémitisme. Moi, je suis très troublée, par exemple, du motif de l'authenticité, de l'identité authentique qui est omniprésente dans les discours à la fois politique et religieux ces dernières années. C'est un discours auquel on était habitué du côté de l'extrême droite, qui très souvent définissait la quête de pureté et d'authenticité identitaire comme étant un besoin de se débarrasser de l'étranger ou de l'étrangeté. On a entendu ces dernières années constamment, de la part d'une certaine gauche et extrême gauche, notamment post-coloniale, l'idée que des identités devaient se décontaminer de l'Occident, de la blanchitude, de la blanchité pour retrouver une identité authentique, pure, véritable et non contaminée. On entend ça, bien sûr, de la part de tous les fondamentalistes qui en font leur fond de commerce, cette idée d'une contamination et d'un retour nécessaire à l'avant, à un temps de pureté. Et moi, j'ai la conviction que l'antisémitisme est toujours au coin de la rue, ou en tout cas très très puissant dans ces moments où il y a une obsession d'authenticité dans nos quêtes identitaires. Et on est parfaitement dans ce moment aujourd'hui, venant de tout azimut.
Alors, il est vrai que Helmut Kohl parlait de la grâce de la naissance tardive pour nos générations, et peut-être cette grâce est-elle en train de se dissiper sous nos yeux, même si nous ne sommes pas à la veille d'une catastrophe du même type que celle qui est survenue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dany Traum, quelle est votre réponse à cette stupeur?
La stupeur est l'effet de la surprise, et donc on ne peut pas être stupéfait de manière continue. La stupeur, elle est venue déjà il y a longtemps, et en réalité, le problème n'est pas du tout qu'on soit surpris, c'est qu'on se soit habitué à la vague d'antisémitisme qui, depuis plus de 15 ans, peut-être même 20 ans, se développe en France. Alors, je pense qu'il faut rappeler que l'antisémitisme a toujours été un mouvement social. Il est né à la fin du 19e siècle, tel un mouvement social. À la fois un courant d'opinion et un mouvement social, et qui avait son expression politique. Alors, vous avez cité Bernanos, effectivement. C'est une phrase très profonde, et en même temps, on aurait presque souhaité qu'il ait raison. Or, il a tort. Il a eu tort, Bernanos. En réalité, on parle beaucoup de nouvel antisémitisme et on fait généralement référence, disons, à la venue de populations des anciennes colonies, à la montée de l'islamisme radical. Moi, à mon sens, la vraie césure, elle est liée à l'extermination des Juifs d'Europe. Le nouvel antisémitisme, c'est l'antisémitisme tel qu'il se manifeste après la Shoah. Le problème n'est pas qu'il y a des Juifs, le problème c'est qu'il en reste, en quelque sorte.
Ah oui, non, vous allez très loin, là, parce que je ne suis pas sûr que Bernanos ait eu complètement tort. Je le disais en commençant, le mot d'antisémitisme reste malfamé, et le réquisitoire contre les Juifs a un contenu adapté à la modernité, et si j'ose dire, adapté à la Shoah. On assiste malgré tout, et ça c'est à échelle mondiale, on l'a vu à la conférence de Durban, qui est quand même un événement particulièrement important, à un retournement de la Shoah contre les Juifs. Il s'est passé là quelque chose d'épouvantable, toutes les nations en ont tenu compte, disent certains, sauf les Juifs avec Israël. Israël rééditerait sur les Palestiniens le crime commis contre les Juifs, et il est donc légitime, au nom même de la mémoire de la Shoah, de s'en prendre à un peuple génocidaire, c'est-à-dire aux Israéliens, mais aussi aux sionistes, qui continuent d'avoir le souci d'Israël, quelque forme que prenne ce souci, c'est-à-dire que ce soit un soutien inconditionnel à la politique des gouvernants ou un soutien critique, de toute façon, le lien avec Israël est un lien coupable dans la mesure où c'est considéré comme un État exterminateur. Donc tout d'un coup, on fait jouer la mémoire du malheur juif contre les Juifs eux-mêmes.
Oui, je dirais ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est que c'est au nom de l'antiracisme que bien évidemment on va nourrir cette rhétorique antisémite. Mais ce qui est pas nouveau, c'est que on fait du juif très fortement aujourd'hui le puissant de l'histoire. Et ça a été, et c'est tout le paradoxe, une constante de l'antisémitisme, c'est-à-dire que les juifs avaient beau être pauvres, on les considérait du côté des riches. Ils avaient beau être impuissants, on les considérait du côté des puissants. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, peut-être que l'existence d'Israël donne un support qui a décuplé ces accusations, puisque Israël est du côté, dans cette imagerie, bien évidemment, d'une virilité mâle alpha, Goliath militaire. Mais en réalité, quand on cherche du côté du bon vieil antisémitisme, on a toujours accusé quand même les Juifs d'être du côté des puissants, du pouvoir, ou de manipuler, ou d'enjuiver le pouvoir, d'ailleurs souvent sous les traits d'une femme manipulatrice, quelque chose qui m'intéresse particulièrement. On a souvent accusé les Juifs d'être du côté du féminin, mais comme étant une puissance manipulatrice, un peu c'est la puissance des sorcières qui est capable de contaminer les puissants. Et on voit que ça, c'est pas du tout nouveau, ça existait à toutes les époques.
Dany Traum, Delphine Horrier parle de Juifs puissants, mais dans vos livres, vous insistez aussi sur le thème de la concurrence victimaire, du deux poids deux mesures dont les Juifs seraient les bénéficiaires. C'est comme si leur nouvelle puissance relevait de leur nouveau statut de victime absolue et que celle-ci suscitait, dans un certain nombre de secteurs de l'opinion, un ressentiment de plus en plus fort. L'anitrome.
Et c'est pour ça que dans l'ouvrage, je tente de repartir du moment de la construction européenne. Vous avez rappelé ce que disait Beck, Ulrich Beck, me semble-t-il. En réalité, il est vrai que l'Europe s'est édifiée à la fois sur la paix et sur le rejet du racisme, mais que on s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée. Parce qu'il n'est pas possible de construire une identité politique sur une extermination. Et là, on se retrouve en Europe dans une espèce d'impasse, puisque nous avons d'une part discrédité l'État-nation, et d'ailleurs l'Europe n'aurait pas pu prendre son envol de la manière dont il l'a fait si l'État-nation n'avait pas été discrédité et désigné comme étant le responsable du nationalisme, du fascisme, etc. Et on se retrouve avec une Europe dont, en réalité, la seule consistance est l'extermination, donc le rejet de la politique. Donc on s'est retrouvé dans une impasse. C'est pour ça qu'on voit très bien que l'extermination des Juifs dans cette construction est en quelque sorte demeuré comme une espèce d'impensé.
Mais alors, rejet de la politique, mais peut-être faut-il aller plus loin. Rejet de l'origine, rejet de la généalogie, rejet de l'identité. C'est-à-dire cette Europe construite à partir de l'événement de l'Holocauste, comme le dit Ulrich Beck, c'est une Europe qui dit que le malheur des Juifs appelle la venue d'une humanité que ne romprait aucune séparation intérieure. Et l'Europe doit donner l'exemple en se déprenant d'elle-même, en se quittant pour ne jamais exclure personne. D'ailleurs, la Turquie, c'est très intéressant. La Turquie peut faire partie de l'Europe parce que l'Europe elle-même ne fait plus partie de l'Europe. Si elle faisait partie de l'Europe en tant que civilisation, la question ne se poserait pas. C'est-à-dire, la civilisation européenne, c'est une civilisation qui s'est constituée partiellement, d'ailleurs, du conflit avec les Ottomans. Alors, on peut évidemment dépasser ce conflit, mais voilà, la Turquie peut faire partie de l'Europe parce que l'Europe ne fait plus partie de l'Europe. Et ça met les Israël et les Juifs en porte-à-faux, parce qu'il y a une identité juive, une généalogie juive et un État juif fondé sur cette identité. Donc, tout d'un coup, c'est comme si les Juifs prenaient l'histoire à contresens. On va vers la déterritorialisation et eux, ils se réenracinent. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et c'est doublé par le fait qu'ils se réenracinent. Ils se réenracinent. Il y a une problématique territoriale et de frontières qu'on croyait avoir dépassées et que tout à coup qui est réactivée. Mais avec un niveau de complexité supplémentaire qui est la problématique de l'identité juive quand même. L'identité juive, c'est une identité pas comme les autres où elle ne cesse de le dire elle-même, elle ne sait pas se définir. C'est-à-dire qu'on met quiconque au défi de dire ce que ça veut dire d'être juif. Est-ce qu'on est juif par son père, par sa mère, par ses enfants, ses petits-enfants? Ça pratique un lien à l'hébreu, un lien à l'humour juif, à la cuisine ou à la littérature. Enfin, il y a autant de définitions, voire beaucoup plus qu'il y aurait de juifs. Et donc, c'est quand même aussi une autre problématique dans un temps de définition identitaire. Comme le juif continue de dire qu'il n'a pas tout dit de son identité et qu'il s'installe à la fois dans une quête de frontières territoriales, mais en même temps dans une non-frontière de définition de lui-même, ça ajoute, je dirais, un niveau de complexité.
Vous avez raison, Delphine Horvilleur, mais je voudrais citer un livre auquel très souvent Danny Trump fait référence, le livre de Jean Koudminer, Les penchants criminels de l'Europe démocratique. Parce qu'il dit ceci, il dit que les juifs d'affirmation se définissent à travers l'expression de génération en génération. C'est une expression que je trouve absolument magnifique. Et les juifs d'interrogation, dont peut-être je fais partie, c'est « que dirais-je à mon enfant ?» Mais tout ça, on s'inscrit justement dans un registre de la filiation. Or, il y a dans les démocraties une exigence d'égalité radicale. Et cette exigence d'égalité radicale, elle engendre une méfiance avec l'héritage, comme si tout devait recommencer à chaque génération pour précisément que chacun soit à égalité. Donc là encore, ça met les Juifs en porte-à-faux, mais ça les met en porte-à-faux avec, en quelque sorte, l'idée démocratique elle-même, ce qui rend les choses particulièrement complexe, si vous voulez, parce que la démocratie les a protégés, et maintenant c'est comme si un différend naissait entre les Juifs et une certaine pulsion démocratique.
Je dirais quand même qu'ils sont pris aussi en étau, les Juifs, dans un moment où il y a deux discours contradictoires qui s'énoncent. L'un, effectivement, qui dit « réinventons-nous en permanence, faisons tabula rasa ». C'est un discours aussi de la technologie, de l'innovation qu'on entend beaucoup dans nos sociétés, qui s'oppose au discours du progrès. Aujourd'hui, le progrès n'a pas du tout le vent en poupe, tout le monde parle de l'innovation. Et la grosse différence, c'est que le progrès, c'est cette idée que quelque chose avance, mais est raccroché aux générations passées. Et on est dans un temps d'obsolescence, qui a beaucoup à voir avec la problématique politique que nous vivons aujourd'hui, comme si on pouvait se débarrasser du passé et dire tabula rasa, je recommence à zéro, ce que d'une certaine manière les Juifs m'empêchent par leur histoire de faire. Mais de la même manière, il y a un autre discours très fort qui est le discours de l'absolu ancrage qu'on entend chez certains identitaires aujourd'hui, et eux aussi, ces gens qui ont une définition identitaire de l'immuable et de la permanence de leur identité, sont tout autant dérangés par un discours juif d'une identité en mouvance, quelque chose comme ça que les Juifs racontent, à mon avis, qui est exactement à l'intermédiaire entre deux discours qui se tiennent la main mais qui semblent être en négatif l'un de l'autre.
Dany Trom.
Oui, moi je voudrais juste reprendre ce que vous disiez à propos d'en recitant Beck. Il ne peut pas y avoir de politique de l'humanité, c'est ça quand même tout le problème. Il ne peut pas y avoir de politique de l'humanité, et le cadre de l'État-nation tel qu'il avait été conçu, il était précisément destiné à faire une médiation entre l'universalité et la réalisation particulière de la communauté politique. Alors, ce que vous dites des Juifs, Alain Finkielkraut, ça vaudrait, disons, pour tout traditionnalisme. Je veux dire, c'était le problème de l'aristocratie au moment de la Révolution française, c'est que naturellement, le libéralisme suppose une forme d'égalité et, naturellement, pose un problème, on va dire, à l'héritage dans tous ces domaines. C'est l'héritage des biens, mais aussi l'héritage de la culture, ou l'héritage de... Donc ça, on le sait très bien. Mais il me semble que c'est la modernité politique mal comprise qui rend impossible l'articulation des deux. Je pense qu'une modernité bien comprise peut très bien honorer le principe d'égalité, tout en laissant hors de ses préoccupations une sphère qui permet parfaitement de concevoir l'héritage générationnel. D'une certaine manière, la synthèse israélite ou les synthèses israélites ont visé une telle composition, et pour finir, ça n'a pas si mal marché jusqu'à aujourd'hui.
Oui, enfin, d'un autre côté, la synthèse israélite a été, si j'ose dire, périmée par l'extermination. Tout de même, c'est-à-dire les Juifs ont cessé d'être des Israélites après 1945. Je voudrais vous citer à cet égard un texte absolument magnifique de Jacqueline Ménilamar. Il semble, écrit-elle, au lendemain de la guerre, que ce que le judaïsme officiel n'a pas fait pour animer l'argile tendre des jeunes âmes à la foi de leur père, que toutes les paroles qu'il n'a pas prononcées, que les gestes qu'il n'a pas accomplis, ce sont les événements historiques de ces dernières années qui s'en sont chargés, après 13 ans d'hitlérisme, après 4 ans d'occupation nazie, en France, après les camps, les wagons et les fours, il n'est plus un seul juif, croyant ou incroyant, perdu ou retrouvé, qui ne se souvienne qu'il est juif. La routine ou la négligence des uns, la honteuse ignorance des autres, l'intransigeance des premiers, le reniement des seconds, tout a fendu au destin d'Israël. C'était pas encore l'État d'Israël, mais c'était le destin d'Israël. Donc on peut dire qu'effectivement, les Juifs sont redevenus Juifs, et quelque chose du même ordre, avec sans doute pas tout à fait la même intensité, est arrivé en 1967. C'est-à-dire quand les Juifs, même très assimilés, ont eu peur que, d'ailleurs vous en parlez, Dany Trom, dans votre livre, que l'État d'Israël ne disparaisse.
Et dans la conscience,
c'est le cas de Raymond Aron. Il a écrit à ce moment-là des textes absolument pathétiques, alors que vraiment le pathétique n'était pas le registre de Raymond Aron, et que certains lui reprochaient sa froideur. Donc il y a quelque chose, effectivement, une redécouverte de la judéité, aussi questionnante et problématique qu'elle soit, qui s'est opérée pour les Juifs, qui a été très bien compris pendant une certaine époque, et qui l'est beaucoup plus difficilement aujourd'hui, Delphine Orvilleur.
Oui, avec la question activée de à quoi tient la protection des Juifs. Et je crois que Danny Trump en parle magnifiquement, y compris dans l'ouvrage qu'il avait publié l'année dernière, La persévérance du fait juif, pour bien montrer qu'effectivement, pendant longtemps, les Juifs, et notamment la formule israélite, a cru en la protection qu'offrirait la protection certaine que pourraient offrir les États ou les nations. Et de quelle manière est-ce que la Shoah remet tout ça en question, et Israël va tout doucement apparaître, et on voit aujourd'hui de quelle manière c'est le cas, comme étant le gardien du peuple d'Israël, qui est une notion juive ancestrale d'ailleurs, qu'on va trouver dans les prières, dans la liturgie, qui est le gardien du peuple d'Israël. Les Lumières et la modernité ont convaincu les Juifs pendant longtemps que les États-nations pouvaient, par l'émancipation qu'ils leur avaient procurée, leur donner une protection. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a la conscience que ça n'a pas été suffisant et que ça pourrait bien ne pas l'être à nouveau.
Oui, en même temps, pour le moment, c'est la menace qui pèse sur les Juifs ne vient pas de l'État. Donc, elle émerge d'une partie de la société civile. Et d'ailleurs, Danny Trump, je voudrais vous demander comment caractériser aujourd'hui cette menace. Je disais en commençant, les agressions antisémites ont augmenté de 74%. Il y a des événements récents aussi qui le disent. Alors, peut-on faire une géographie ou une sociologie de la haine qui s'exprime actuellement, Danny Trump?
C'est difficile à faire, mais on peut en faire peut-être une généalogie sur le temps court. Un des points majeurs pour la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui est lié à partir des années 80, disons, au délitement de la classe ouvrière, de l'affaiblissement du Parti communiste, de l'affaiblissement des instances socialisatrices du mouvement ouvrier. Les populations allochtones qui arrivaient en France étaient intégrées en France via la culture politique du communisme. Vous pouvez lire Aragon. Ça s'est effrité à une vitesse, ça s'est effondré en quelque sorte, à une vitesse invraisemblable, quelque chose qui a été patiemment édifié sur de très longues années. Or, naturellement, des populations se sont retrouvées en quelque sorte désorientées, sans capacité de comprendre quelle était leur situation, et les intellectuels qui ont, disons, accompagné ce mouvement sont passés en quelque sorte, on va dire de manière un peu grossière, d'une théorie de l'exploitation et d'une théorie qui portait un espoir de libération, un avenir qui pouvait être radieux, à une théorie de l'aliénation, à une théorie de la domination sans voie de sortie. Et je pense que le problème a émergé à la fois, on pourrait dire, dans la théorie et dans la pratique. Dans la pratique, c'est la désorientation qu'il a emportée, et dans la théorie, peut-être encore pire, parce que ceux qui pensent ont la responsabilité quand même d'analyser ce qui se passe.
Oui, mais alors justement, en effet, la critique de la domination joue un très grand rôle dans la pensée contemporaine. Et que se passe-t-il aussi aujourd'hui? Là, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat. La part des nouvelles populations venues du Maghreb, de Turquie, du Moyen-Orient, d'Afrique noire et des Antilles, la violence anti-juive est très grande. Le Premier ministre a parlé d'alia intérieure, pour le déménagement d'un certain nombre de familles qui ne peuvent plus vivre, notamment en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est un phénomène tout à fait spectaculaire, auquel on n'était pas préparé, et auquel aussi, me semble-t-il, une partie de l'intelligentsia a réagi par le déni, puisque c'était des dominés, et peut-être même, aux yeux de certains, les nouveaux juifs de l'époque. C'est la thèse d'Edoui Plenel, la thèse de Luc Botanski, la thèse d'Enzo Traverso. Elle est très simple, c'est-à-dire que l'hostilité contre les juifs se réoriente aujourd'hui contre les musulmans. Autrement dit, les musulmans sont les nouveaux juifs. Alors, tous les musulmans, bien entendu, ne se livrent pas à des agressions contre les juifs. C'est absurde de le dire, de formuler les choses ainsi. Mais il y a, dans le monde arabo-musulman, une certaine hostilité. Voilà. Et qui peut prendre des formes violentes. C'est très minoritaire, mais ça existe. D'où le porte-à-faux, là encore, et effectivement, la parade, si j'ose dire, du déni. Et là, les Juifs se sentent un peu abandonnés, moins tant par l'État, en l'occurrence, mais par une partie du monde médiatique et du monde culturel qui, très longtemps, n'a pas voulu voir. Delphine Orvilleur.
Qui n'a pas voulu voir et qui n'a pas voulu nommer une représentation de ça, c'est par exemple la confusion qu'on a laissé se répandre entre la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, comme si ça relevait précisément du même territoire mental, que c'était une seule et même chose. C'est une grande confusion et aujourd'hui on en voit les conséquences. En fait, il faut être capable de rappeler la différence entre le racisme et l'antisémitisme en précisant, comme il faut le faire à chaque fois, qu'on n'est pas du tout en train d'établir une quelconque hiérarchie, ni de gravité, ni de combat à mener, mais être capable, pour pouvoir sortir de cette impasse, de parler de sur quoi s'appuie le racisme ou l'antisémitisme. Pour le dire très simplement, le racisme, c'est bien souvent l'exacerbation d'un sentiment de supériorité par rapport à un autre qui n'a pas mon accent, ma couleur de peau, le niveau de civilisation que j'ai moi parce qu'il est un peu plus barbare que je ne le suis. Alors que l'antisémitisme s'abrite à l'ombre d'un discours qui est pratiquement l'antithèse. Il consiste à dire comment ça se fait que le juif, il a quelque chose que je n'ai pas? Comment ça se fait qu'il ait quelque chose que je ne suis pas? Qu'il habite là où j'aurais dû habiter? Qu'il a réussi ce que là où j'ai échoué, qu'il est finalement celui qui a subtilisé quelque chose qui aurait dû me revenir. Et si on n'est pas capable d'énoncer ça, alors effectivement, on n'est pas capable non plus de dénoncer l'antisémitisme quand il vient d'une population qui incontestablement a été victime de racisme. Parce qu'on a créé cette confusion générale du langage, aujourd'hui on est incapable d'opérer des distinctions. C'est intéressant parce que un des sens en hébreu du mot peuple élu, vous savez, qui cause tellement de problèmes au peuple juif, la façon dont c'est interprété ce mot en hébreu, c'est une expression qui littéralement veut dire peuple de la distinction. Le peuple élu, c'est celui qui est capable d'opérer des distinctions en réalité. Et quand on est dans un temps où on veut plus distinguer, parce qu'on est dans un égalitarisme absolu, eh bien on va reprocher aux juifs de représenter l'élection, et dans un temps où on s'en prend aux élus, à tous les élus, alors bien évidemment qu'on s'en prend aussi à eux.
Oui, à tous les élus, à toutes les élites aussi.
À toutes les élites, exactement. À tout ce qui semble être aux commandes.
Exactement. Danny Traum.
Oui, moi je veux bien dire quelque chose sur le problème de la part. Vous dites il y a une part, et c'est indéniable. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à la mesurer. Comme on n'arrive pas à mesurer la part, je pense qu'il a été commode de se centrer beaucoup sur l'islamisme. Et on a fait comme si le problème était la radicalisation de l'islam. Et on n'a pas vu qu'en réalité, je ne conteste pas du tout, mais on n'a pas vu que la radicalisation de l'islam était la partie d'une pièce plus large qui était tout simplement la radicalisation de l'antisémitisme. C'est-à-dire que dans ces milieux qu'on va dire post-coloniaux, prenez l'exemple de Dieudonné, c'est ni le Maghreb, il n'est pas arabe, il n'est pas musulman non plus, et pourtant il nous fournit la synthèse la plus épurée de ce qu'on peut appeler, disons, l'antisémitisme contemporain.
Et il est très apprécié aux Antilles. C'est pour ça que j'en ai parlé.
Oui, vous avez raison. Et du coup, on n'arrive pas très bien à... Alors, on voit bien ce qui se passe aussi dans le sillage des Gilets jaunes. Et là, on se rend compte, en réalité, on a cru que, j'utilise le mot ici avec prudence, populace, en utilisant le terme d'Anna Arendt, qui veut dire, en fait, peuple désorienté et violent. On a cru qu'en réalité la populace était essentiellement une populace dite de banlieue, et on s'est aperçu qu'il y en avait en réalité une seconde qui tétanise la première et qui peut-être un jour, et on l'a vu à la télévision il n'y a pas si longtemps, pourrait en réalité converger.
Oui, mais alors justement, je voudrais en venir maintenant à la petite mésaventure que j'ai subi lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Je ne veux pas en faire un plat, je le dis très fortement, je ne suis ni un héros ni une victime. J'assistais par hasard à cette manifestation parce que je voulais tout simplement rentrer chez moi. Et j'ai été en effet pris à partie. Mes premiers constats, les injures qui pleuvaient, ne relevaient pas de la rhétorique antisémite classique. J'ai même été traité d'antisémite. Mais sinon, c'était grosse merde sioniste, Palestine, et le plus violent était clairement, et d'ailleurs je crois qu'il a été identifié, un salafiste, ça il faut le dire, qui m'a dit, entre autres menaces, la France est à nous. Mmh. C'est lui qui m'a dit ça. C'est la France est à nous. Mais donc ça c'est un premier élément de surprise. Deuxième surprise, là je crois que ça peut nous amener à réfléchir sur le caractère, sinon nouveau, du moins inculpabilisable, de l'antisémitisme tel qu'il se manifeste aujourd'hui. Dans un commentaire, quelqu'un a dit, c'était sur le Facebook du Monde, je crois, en réponse à un article de ce journal, « Le mouvement des Gilets jaunes est le mouvement le plus moral qui soit. Car malgré le soutien de ce sioniste au mouvement, il est vrai que j'avais manifesté une certaine sympathie au début pour... »
Bien imprudente.
Non, je ne crois pas. C'est peu importe. Pour se laisser pour compte de la mondialisation et des aides sociales, les Gilets jaunes s'en désolidarisent par principe moral. L'injustice doit être repoussée coûte que coûte. Et comme, effectivement, je suis sioniste, alors on ne veut pas de moi à cause d'Israël et de la cause palestinienne. Deuxième chose que je voudrais souligner, une journaliste s'en est pris à moi très 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 violemment sur les réseaux sociaux. C'est l'ancienne journaliste du Nouvel Observateur qui dirige aujourd'hui Le Média, ce site d'information proche de la France Insoumise ou de Lancelin. Et elle dit, voilà, Benjamin Griveaux a dit qu'il a été traité de sale juif, c'est une calomnie, cette phrase est inaudible, il s'agit simplement de faire monter la haine contre un mouvement social. Autrement dit, que je sois traité de grosse merde de sioniste n'est pas un problème. Mais là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se produit. C'est-à-dire, certains décernent un certificat de bonne conduite à la haine, dès lors qu'elle se formule au nom de la lutte contre le sionisme. C'est une manière de dire, là, vous pouvez y aller, les lyncheurs, mais ne vous trompez pas de cible. Si vous attaquez un juif en tant que juif, non, là, ça ne se fait pas. Mais un juif en tant que sioniste, ça se fait. Donc, autrement dit, il y a une moralisation. Mmh. Voilà. Il y a une moralisation de l'antisémitisme. Et là, évidemment, comment déshonorer une haine qui se présente sous de tels auspices? Là est la question, me semble-t-il.
Oui.
Delphine Orvilleur.
J'aimerais revenir aussi à un instant sur cet après-midi que vous avez vécu. Il se trouve que j'ai trouvé assez terrifiant de voir le nombre de personnes qui ont réécouté en boucle le film pour essayer de savoir si on entendait ou pas sale juif. Comme si, voilà, il nous fallait absolument cette démonstration. Les gens réécoutaient, s'envoyaient des time codes en disant 14e seconde, 20e seconde. Au moment même où cela avait lieu, circulait un autre film sur les réseaux sociaux qui est ce moment où Ingrid Levavasseur se fait exfiltrer. Ce qui est troublant, c'est que ça se passe la même après-midi et que là, il n'y a aucune ambiguïté. Quand on écoute l'enregistrement audio au moment où elle se fait exfiltrer dans la violence, on entend une femme derrière elle qui dit « Retire ton gilet, il est sale juive ». Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ce qui est intéressant, c'est que on ne s'adresse pas, a priori, à une juive à ce moment-là. Ce qui veut bien dire, dans cette problématique, que quand on utilise le mot « juif », c'est comme si, dorénavant, il parlait d'autre chose. C'est-à-dire que « juif », ça veut dire, pour le traduire autrement, c'est le nom de l'étranger à ma cause, de l'étranger à ma France, de l'étranger à mon combat. Voilà. On peut affubler de ce nom quiconque, voilà, est étranger à mon combat, l'insulte.
Mais ma France, en l'occurrence, c'est un salafiste qui le dit, quoi.
Oui, il rejoint de ce point de vue-là.
La France, aujourd'hui, c'est nous. Voilà, mais les juifs dégagent les premiers. C'est un peu côté comme ça. Quand
une
même.
Alliance étrange entre bien des gens qui prononcent aujourd'hui cette phrase et qui se considèrent comme aux antipodes politiques les uns des autres, qui considèrent que la France est à eux pour des raisons particulières. Et le juif vient incarner ce qui empêche la France d'être pleinement elle-même ou de revenir pleinement elle-même. Effectivement, vous avez raison sur le vocable sioniste. On voit à quel point il est devenu un nom de code. Et beaucoup de gens vous disent « je suis anti-sioniste, mais je ne suis pas du tout antisémite ». Et moi, je peux l'entendre, mais je pense que quand on entend cela, il faut immédiatement interrompre la conversation. Dire à la personne « deux secondes, qu'est-ce que tu veux dire ?» Quand tu te déclares anti-sioniste, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu considères qu'on a le droit d'énoncer une critique de la politique israélienne? Est-ce que tu considères que l'État d'Israël n'a aucune légitimité? Pourquoi est-ce que ce mot se passe de tout commentaire aujourd'hui dans bien des médias? On le dit, on l'explique pas, et aujourd'hui on ne peut plus se permettre de ne pas l'expliquer puisqu'on a eu la démonstration très concrète et visuelle que ce mot est utilisé pour dire juif sans qu'il cause les mêmes soucis à celui qu'il prononce. Donc je pense que c'est, d'une certaine manière, c'est un arrêt solennel de la possibilité d'utiliser aujourd'hui le mot antisioniste sans l'expliquer. Je pense qu'on ne peut plus tolérer que quiconque l'utilise sans qu'il nous explique exactement ce qu'il veut dire par là.
Danny Trump.
Oui, à propos de cet événement, d'abord, ce qui m'a frappé, c'est l'incroyable agressivité qui donne, alors je pense aux Français, une idée de ce qui peut se passer dans un certain nombre de quartiers dont ils n'ont probablement pas idée et qui fait que les Juifs, comme vous dites, beaucoup sont partis, soit une espèce de migration interne, soit ont quitté le pays. La deuxième chose, c'est
que... Oui, parce
que
c'est le titre de votre livre, quand oui. même. La France sans les Juifs, point d'interrogation. Oui. Alors, il y a peut-être un point d'interrogation,
dans la dernière édition,
là, on a enlevé
le point d'interrogation.
Ah oui, pardon, oui. C'est les épreuves.
Oui,
excusez-moi.
On l'a enlevé, mais c'est pas grave.
Vous avez carrément enlevé le point d'interrogation.
Oui, la plupart des gens trouvaient que c'était tout à fait inutile, parce que, tant dire les choses telles qu'elles sont et ne pas mettre des guillemets...
Ah oui, non, voilà.
Voilà. Alors, non, je voudrais juste...
Continue, terminez votre raisonnement, pardon. Voilà.
C'est sur ce degré d'agressivité. La deuxième chose, je pense, à propos des Gilets jaunes, que dans l'esprit de certains, il y avait, disons, une espèce de mobilisation de la France périphérique qui était censée raviver... une espèce de patriotisme ou de raviver, puisqu'on y chantait la Marseillaise, etc. Et l'idée était que peut-être qu'on pourrait jouer, cette foule-là contre la foule des banlieues. Je pense que c'est une très très grave erreur. Et l'incident dont vous avez été la victime le montre, puisque vous avez eu un salafiste le plus agressif, portant un gilet jaune. Donc je pense qu'il faut se méfier de ce genre de raisonnement. Alors, on est chez nous. Moi aussi, c'est la chose qui m'a le plus...
Mais c'est ça, ce qu'il a dit. Hein.
Oui. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les deux foules, on peut dire on est chez nous. C'est-à-dire, on peut revendiquer des deux côtés une autochtonie, en quelque sorte. Et alors, quand un salafiste dit on est chez nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, naturellement, les Juifs, vous n'êtes pas chez vous. J'ai entendu dire, va à Tel Aviv, etc. Mais en fait, Tel Aviv doit être détruit dans l'esprit du salafiste. Donc, en fait, vous n'êtes pas chez vous ici, mais vous n'êtes pas chez vous là-bas. Et la conclusion, c'est que vous êtes quand même chez vous nulle part.
Oui, c'est ça. Ça
et
c'est vrai,
donc,
lui, c'est ça.
Donc, il y a là, disons, à partir d'une revendication d'un côté d'une autochtonie peut-être un peu vieille France et de l'autre côté d'une autochtonie qui prend un caractère tellement universaliste qu'en réalité vous ne trouverez probablement pas de place dans le monde.
Oui, mais là c'est aussi c'est-à-dire il est très possible que le concept de grand remplacement soit un fantasme paranoïaque, mais il est clair que le salafiste qui parlait ainsi, et disant il était dans une logique clairement remplaciste. La France est à nous, c'est cela aussi qu'il voulait dire. C'est-à-dire, pour lui, la France avait vocation à devenir une terre d'islam. Simplement, ce qui montre combien bien la très grande hétérogénéité malgré tout de cette foule. Et je dois la vérité de dire, et on va clore sur cet incident, que certains gilets jaunes sont venus me voir pour me demander, pour me tendre un gilet, peut-être avec ironie, mais sans méchanceté en tout cas, et me demander de me joindre à la manifestation. Et c'est aussi un gilet jaune qui a voulu m'exfiltrer et me protéger. Et il y en a un autre qui m'a dit, j'aime bien vos analyses, je suis d'accord avec ce que vous dites, etc. Donc voilà. Mais simplement, Danny Trump, nous avons pas cartographié, mais nous avons réfléchi à la réémergence d'un certain antisémitisme dans la rhétorique aujourd'hui de l'antiracisme. Mais qu'est-ce qui vous fait conclure, qu'est-ce qui vous fait dire la France sans les Juifs et enlever le point d'interrogation, Danny Trump? Parce que les Juifs sont toujours là. Les Juifs dont Pierre Manant dit que dans la France, la France est un pays de marque chrétienne où les Juifs jouent un rôle éminent.
D'abord, je pense qu'il y a une espèce d'hémorragie qui ne se voit pas beaucoup parce que les Juifs partent en quelque sorte un à un. Mais si on reprend la comptabilité, disons depuis 2000, ça fait quand même une partie quand même importante de la communauté qui part. Mais la question n'est pas tellement numérique. La question, c'est Et les Juifs ont perdu leur quiétude en France. Et c'est ça le point. Je pense qu'on ne trouvera pas une seule personne qui se dit juif d'une manière ou d'une autre, quel que soit ce que ça signifie pour lui, et même si ça signifie pas grand-chose, qui n'ait pas songé que cette question qu'il pourrait se poser, qu'il serait amené à se poser cette question. Alors naturellement, dès lors que chacun se pose la question de la France sans les Juifs est une question d'actualité. Ce que je veux dire, c'est que elle est devenue notre actualité. Je ne dis pas que la France sera sans les Juifs. Je dis que la France sans les Juifs est rentrée dans l'imagination de tous.
De tous, vous diriez?
Ah oui, je pense, de tous.
D'une
D'une
inquiétude, en tout cas, qui est effectivement partagée par, par énormément de Juifs aujourd'hui qui se posent des questions sur l'avenir. Moi, cette phrase, pour moi, elle m'inspire, mais c'est volontaire, bien entendu, dans le livre, ce discours incroyable de Manuel Valls à l'Assemblée nationale, que la France sans les Juifs n'est pas la France. Et avec tout le paradoxe de cette phrase, c'est ce que Manuel Valls énonce en cet instant. C'est pas que tout particulièrement sans les Juifs, la France ne serait pas la France. C'est que les Juifs ont incarné dans l'histoire de France, après leur émancipation et la place qu'ils ont jouée dans l'histoire de ce pays, ils ont incarné d'une certaine manière la possibilité d'une égalité pour tous, de la justice ou de l'égalité pour tous. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on leur reproche, et ce qui est fou en réalité, c'est d'incarner dans l'esprit antisémite l'inégalité dans ce pays. Donc quand on dit la France sans les Juifs, en voulant dire que la France ne sera fidèle à elle-même, que dans la manière, les Juifs, la façon dont les Juifs seront traités en sera le reflet de ce souci républicain de l'égalité, aujourd'hui, de façon paradoxale, on renvoie l'idée que les Juifs empêchent l'égalité de se faire et qu'ils sont plus protégés et que le deux poids deux mesures, moi je l'expérimente aussi en permanence en tant que rabbin, je l'ai senti ces dernières années quand les synagogues sont protégées, comme elles le sont depuis des années, par la police ou par l'armée, comme elles l'ont été après les attentats. Le paradoxe, c'est que quand les Juifs sont menacés et assassinés, ils ont besoin d'être protégés, mais quand ils sont protégés, immédiatement, ils nourrissent ce discours d'une menace sur l'égalité. Et qu'est-ce que c'est que ce deux poids, deux mesures? Et donc, plus on nourrit ce discours antisémite des Juifs sont plus protégés que les autres, plus on fait monter l'animosité qui fait monter la menace, qui nécessite que les Juifs soient plus protégés. Et vous voyez le cercle vicieux.
Voilà, cercle vicieux. Vous avez tout à fait raison. Mais vous dites les synagogues sont protégées. On a assisté aussi, depuis quelque temps, à une croissance exponentielle des agressions anti-chrétiennes et des profanations d'églises. C'est un phénomène massif, très inquiétant, et qui n'est pas peut-être aussi relevé et condamné
Absolument.
Qu'il devrait l'être. Et justement, ça me pousse à penser que dans le contexte actuel, les Juifs et les catholiques, justement, sont dans le même bateau. Je lisais, il y a longtemps déjà, les Territoires perdus de la République, le livre que dirigé par Georges Bensoussan. Eh bien, j'y ai appris que les deux injures favorites dans certains quartiers, c'était salle juif et salle français. Et que un catholique qui était arrivé dans une école, d'une école privée, dans une classe publique, je ne sais où, dans Seine-Saint-Denis, a été maltraité, tu es un porc, tu manges du porc, bas de boue, etc. Et il a été obligé de changer d'établissement. Donc, c'est tout ça quand il dit « La France sans les Juifs », je pense, Danny Trom, à ce livre de Houellebecq, « Soumission ». Myriam, la petite amie du narrateur, émigre en Israël, elle fait son alia, et lui dit « Moi, je n'ai pas d'Israël
oui, ». Oui.
Vous vous souvenez?
Absolument.
Donc, voilà, que penser de tout ça, Danny Trom?
Bon, Je serais pas d'accord pour décrire la situation telle que vous le faites. Je pense que s'il y a des convergences dangereuses et s'il y a des alliances nécessaires, elles ne sont pas là. Je pense pas que les catholiques sont en train de quitter la France.
Non.
Je pense même pas.
Non,
je l'ai dit, ça a choqué.
France, mais...
Écoutez, ça a choqué tout le monde. J'ai dit, je ne pense même pas qu'il y ait un maghrébin qui rentre chez lui parce qu'il y a trop de xénophobie. Donc, je pense qu'il faut faire attention et bien prendre acte de la singularité de la manière dont la communauté juive est visée, et elle ne l'est pas de la même manière dont la communauté musulmane peut l'être.
Alors, là, je vais vous poser une question à tous deux, mais il me semble que pouvoir caractériser la singularité du phénomène que nous vivons ainsi, à partir justement de l'exemple d'Aude Lancelin, on est habitué à combattre l'incitation à la haine raciale. Voilà. Mais là, tout d'un coup, on assiste à une incitation à la haine antiraciste, dont les Juifs sont les premiers objets. Voilà. C'est la haine antiraciste qui se manifeste très clairement. Et effectivement, rien ne la limite, rien ne lui fait honte. Et certainement pas les images des camps. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec l'énonciation de ce paradoxe? Et deuxième question, est-ce qu'on peut faire quelque chose?
On assiste, et c'est incontestable, à une parole antisémite de la part de gens qu'on a considérés pendant longtemps comme étant des alliés évidents. Et c'est là où se tient toute la difficulté de ce combat. Moi, me vient à l'esprit des alliés que j'avais toujours considérés pour mille raisons comme étant les miens, qui sont les féministes, par exemple. Aujourd'hui, quand j'entends la voix, l'expression de certaines féministes radicales américaines, je pense à Linda Sarsour qui a pu déclarer de ça il y a quelques semaines qu'on ne peut pas être féministe et sioniste.
Oui.
C'est à bondir. Ça veut dire qu'en fait, ces féministes-là...
Être féministe, c'est revêtir le niqab, en revanche.
En fait, de son point de vue, encore une fois, c'est cette idée que le juif est du côté, en toutes circonstances et particulièrement s'il est sioniste, du côté des oppresseurs, de l'oppression et des dominants, et que donc le combat féministe intersectionnel a à voir avec la dénonciation de cette domination. Mais ça veut dire, pour le traduire autrement, que les amis de Linda Sarsour seraient prêtes à voler au secours de toutes les femmes, n'importe quelle femme, avec des revendications de souveraineté, d'être sujet ou nationaliste ou territorial, quelle qu'elle soit, sauf des juives. Voilà. Quand j'ai écrit ce livre, avant qu'il s'appelle Réflexion sur la question antisémite, moi je voulais qu'il s'appelle Sauf les juifs. Parce qu'en plein de circonstances, c'est comme s'il y avait une exception faite pour les juifs dans le discours. On va combattre pour le droit de beaucoup de minorités, sauf quand il s'agit d'eux. On va se sentir concerné, sauf quand il s'agit d'eux. Comme la célèbre blague juive, vous savez, on s'en est pris aux juifs et aux coiffeurs, mais pourquoi les coiffeurs?
Alors, quand même, Dany Trom, je reviens au titre de votre livre. La France sans les juifs. L'antisémitisme suscite, malgré tout, dans les médias, dans la classe politique, une réaction de rejet et de dégoût quasi unanime. Ça n'a rien à voir avec le climat des années 30. Mais rien.
Absolument.
Donc, alors, il est très difficile de le combattre sous sa nouvelle forme. Cette nouvelle forme à qui on ne peut pas faire honte. Mais on a l'impression que toute une partie de la France ne peut pas se concevoir sans les juifs et le dit très clairement. N'est-ce pas quand même un signe d'espoir dans le malheur des temps?
Oui.
Dany Trom.
Oui. Alors peut-être juste un mot à Delphine Orvillère sur les femmes. Vous pouvez répondre à votre interlocutrice que le Congrès sioniste a donné sa première élection en 1896 a donné le suffrage universel, y compris pour les femmes. Donc c'est un peu anecdotique. Alors, le problème est le suivant, c'est que vous avez tout à fait raison, on n'est pas dans une situation des années 30. Le problème est que l'antisémitisme vient de la société et pas de l'État. Mais que l'État, on n'a pas voulu voir que c'était des dominés qui pouvaient être les vecteurs de l'antisémitisme et de violences antisémites. Et puis, on n'a pas voulu voir non plus que la parole de l'État, la parole du pouvoir, qui devait être une parole d'autorité, n'avait aucune autorité, qu'elle n'était absolument pas entendue. Et dans la société, les corps intermédiaires n'ont pas joué leur rôle. La régulation sociale ne s'est pas faite. La sanction sociale n'a pas eu lieu et le phénomène s'est installé au point où, maintenant que l'État tente de reprendre la main, il n'est pas entendu. Pire, quand il dit les choses avec force, il semble en quelque sorte donner raison à ceux qui pensent que ce sont en réalité les Juifs qui dominent la République.
Oui.
C'est-à-dire que dès lors que, je pense à Valls, mais il y en a eu d'autres, dit solennellement, mais en réalité, ce rituel de réassurance des Juifs n'a pas d'impact dans la société.
Ou les vulnérabilise.
Mais parce que nous sommes, dans une situation, nous sommes dans une situation aujourd'hui de défiance énorme à l'égard de l'État, à l'égard des élites. Et donc, vous pouvez toujours attendre de l'État qui parle avec autorité, mais il semble qu'il ne soit pas entendu. Et donc, il est en quelque sorte débordé. Il est littéralement débordé. Oui, on est dans une démocratie libérale. Il y a des limites à l'intervention de l'État. Valls a pu interdire le spectacle de Dieudonné, mais on voit bien que ses moyens sont limités.
Pour finir, oui. Delphine Orvilleur.
Non, si vous me permettez de faire le rabbin maintenant, de mettre ma barbe de rabbin. On est en ce moment dans le calendrier juif, dans un moment qui raconte une histoire que beaucoup de gens connaissent, mais elle raconte étrangement tout ce dont on parle depuis une heure. C'est l'histoire de Pourim, mais l'histoire de la reine Esther. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire, la reine Esther. Dans l'histoire de Pourim, il y a une triangulation très particulière qui a lieu. Il y a le pouvoir et il y a les juifs qui entrent dans le château, le palais, et puis il y a la populace qui est représentée par le méchant Haman antisémite, et la question est de savoir est-ce que les juifs sont sauvés, et ça dépend du lien qui se créera ou pas entre le pouvoir et ce peuple.
Voilà, c'est vrai, mais il faut dire aussi qu'une partie importante de ce peuple, ou en tout cas de la société civile, réagit avec dégoût à toutes les manifestations d'antisémitisme. Je suis étonné moi-même de ne pas conclure par une réflexion trop pessimiste. En tout cas, je vous remercie l'un et l'autre. Delphine Orvilleur, vous publiez « Réflexions sur la question antisémite » chez Grasset. Dany Trom, « La France sans les Juifs » est publié aux Presses universitaires de France. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.